Gérard Prunier, bonjour.
Bonjour.
Comment jugez-vous le rapport de force aujourd'hui entre l'armée éthiopienne et les rebelles ?
Alors, vous avez toujours des forces gouvernementales, mais on ne peut pas dire que c'est une armée nationale. Vous avez d'une part des milices Amara, mais justement, ce qui est probable, c'est que les rebelles attaquent Addis Abeba en contournant ces lignes de défense Amara qui sont fortes. Et puis, il y a l'armée érythréenne qui est dans la guerre depuis le début et qui est du côté du gouvernement éthiopien. Le dictateur érythréen Isaias Afewerki a, lui, une armée encore puissante et probablement 300 000 hommes, sur lesquels les deux tiers sont en Éthiopie pour se battre en soutien du gouvernement d'Abiy Ahmed. Or, ils se battent plus en soutien. Ils ont mis l'arme au pied et surtout, ils se sont déployés sur des lignes de défense pour se protéger de deux choses. D'une part, que l'armée rebelle tigréenne, avec maintenant de plus en plus d'auxiliaires venant d'autres groupes ethniques, aille jusqu'au Soudan. Pourquoi le Soudan ? Parce qu'au Soudan, ils pourraient bénéficier d'une aide égyptienne, étant donné que les Égyptiens sont tout à fait contre le régime de M. Abiy Ahmed. Donc, l'armée érythréenne protège l'accès à la frontière soudanaise. Et puis au nord, elle est déployée aussi d'est en ouest pour protéger l'Érythrée elle-même.
Depuis mardi, c'est l'état d'urgence dans le pays, et notamment à Addis Abeba, où les autorités demandent aux 5 millions d'habitants de se préparer à défendre la ville. Est-ce que vous pensez que les rebelles peuvent essayer de marcher sur Addis Abeba ?
Oui, certainement. Par contre, cette espèce de blanc-seing qui a été donné aux autorités par rapport à une véritable légalité est extrêmement dangereuse. Ça veut dire, en gros, que la police et des milices armées peuvent arrêter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où.
C'est ce que permet la loi d'état d'urgence, en effet, et cela vous inquiète beaucoup ?
Oui, parce que c'est un pays très violent, l'Éthiopie.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la prise d'Addis Abeba par les rebelles en mai 1991, il y a tout juste 30 ans ?
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs là que se situe le problème. Parce que ces rebelles qui étaient largement des Tigréens, déjà à l'époque, mais il n'y avait pas que, il y avait aussi des Oromos, il y avait aussi des milices de divers groupes ethniques, mais quand les Tigréens, qui étaient les plus dynamiques, les plus efficaces, ont pris le pouvoir, ils n'ont plus relâché. Et ensuite, jusqu'à la mort de Meles Zenawi en 2012, il y a eu une mainmise totale des Tigréens sur la vie politique éthiopienne. Et la situation qui s'esquisse à l'heure actuelle ressemble, je dirais presque comme une photocopie, à celle de 1991. Parce que le chef des rebelles tigréens était déjà celui qui a conquis la ville en 1991 contre les communistes. C'est le même monsieur. Je le connais très bien, c'est le général Tsatkan Gebretensai, qui a été longtemps chef d'état-major de l'armée éthiopienne, qui est maintenant le chef des rebelles. Mais il ne faut pas, si on veut que le futur de l'Éthiopie aille dans le bon sens, refaire ce qui s'est passé en avril 1991. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aboutira à la même chose, c'est-à-dire à la monopolisation du pouvoir par un groupe ethnique distinct. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Surtout que tout le problème après la mort naturelle de Meles Zenawi en 2012, tout est venu justement d'un rejet populaire de cette domination tigréenne. Il faut donc pas recommencer. Et ça, je sais très bien, parce que je m'en suis entretenu avec lui autrefois, le général Tsatkan ne souhaite pas du tout refaire la même chose. Et il sait que pour avoir une chance, il faut multilatéraliser le changement de régime. Si c'est échanger le régime actuel pour un régime tigréen modèle 91, c'est pas la peine de commencer, ça aboutira au même résultat.
D'où votre idée qu'il faut une solution politique, c'est ça ?
Oui, mais d'abord elle sera militaire. Ça se passera d'abord à coups de canon. Mais quand on arrêtera de tirer les coups de canon, il faudra évidemment une solution politique. Et la solution politique, c'est d'ouvrir aux Oromos. Les Oromos sont la plus grosse minorité de l'Éthiopie. Il n'y a pas de majorité en Éthiopie. Il n'y a aucune ethnie qui représente 51% de la population. Par contre, les Oromos doivent représenter entre 35 et 40%. Et Addis Abeba même, que eux d'ailleurs n'appellent pas Addis Abeba, parce qu'Addis Abeba, c'est un nom amharique qui veut dire la nouvelle fleur. Mais ils l'appellent du vieux nom oromo d'un village qui était là avant les années 1880, fin fine. Et justement, si le général Tsatkan arrive à l'emporter sur ses rivaux à l'intérieur du camp rebelle, il faudrait laisser les oromos reprendre fin fine. Donc il y aura un gros problème qui sera le problème amhara. Mais du côté des Oromos, le problème est très différent. Ils sont trop démocratiques et trop fragmentés. Et le danger, c'est plutôt d'avoir non pas un groupe Oromo pour discuter à la table de négociation quand la bagarre est terminée, mais d'en avoir trois ou quatre. Et alors là, évidemment, vous pouvez comprendre que ça complique énormément les choses. Mais n'oublions pas qu'il y a 38 millions d'Oromos.
L'émissaire américain Jeffrey Feltman demande aux rebelles du TPLF de ne pas marcher sur la capitale. Nous nous opposons à tout mouvement rebelle vers Addis Abeba ou à toute action visant à assiéger la capitale.
Bon, c'est évidemment du baratin. Parce que les Américains ne tolèrent plus des guerres à longue distance. Et ça a commencé, ce virage, je dirais, avec l'échec au Vietnam, et l'effondrement récent en Afghanistan en est une illustration supplémentaire. Lancer une expédition en Éthiopie est totalement hors de question. Les Américains peuvent menacer tant qu'ils veulent. Les seules menaces qu'ils peuvent mettre à exécution sont de nature financière. Supposons qu'ils le fassent. C'est pas impossible. Ça sera une mesure transitoire. Surtout, si les rebelles prenaient à 10, personne n'aurait envie de les étrangler. Tout le monde aurait envie de les influencer, de discuter avec eux, d'obtenir le changement de certaines mesures, la création d'autres, mais pas de les étrangler. Ça, je n'y crois pas.
Gérard Prunier, merci.